Donc, selon toi, donc Étienne Chouard serait pas forcément un antisémite ouvert, mais plutôt ce que tu appelles un antisémite structurel. Donc, qu'est-ce que tu entends par antisémite structurel?
Oui. Pourquoi est-ce qu'on précise antisémitisme structurel? Parce que souvent les individus qu'on peut accuser d'antisémitisme structurel disent mais non, je ne suis pas antisémite et tout ça. Et en fait, l'idée, c'est que ici, l'antisémitisme structurel, on n'entend pas, du coup, qui est un peu la définition banale, un peu en mode SOS racisme de l'antisémitisme, c'est-à-dire une hostilité personnelle, une haine vis-à-vis des individus juifs qu'on rencontre. En réalité, l'antisémitisme structurel, c'est beaucoup plus qu'une. Beaucoup plus, et pas forcément d'ailleurs, ça, il y a évidemment des liens entre l'antisémitisme structurel et l'antisémitisme. Mais l'antisémitisme structurel, c'est en réalité une véritable vision du monde, un véritable système de pensée qui a une fonction très précise au sein du capitalisme et qui se réactive en gros à chaque crise, qui est que pour éviter de se remettre en cause comme sujet capitaliste, et parfois comme sujet de classe moyenne, mec, blanc et tout ça, c'est-à-dire comme étant pas évidemment la classe dominante, mais disons pas en tout cas les franges dominées de la classe dominée, voilà, pour tout un tas de raisons, l'antisémitisme structurel, ça va être cette vision du monde qui consiste non pas à voir par exemple dans les crises, les guerres et les mouvements de migration par exemple, des produits de la dynamique des produits de la dynamique du capitalisme, voilà, des affrontements entre les différentes puissances capitalistes, des rapports entre les centres et les périphéries, du fait que la crise se répercute plus dans les périphéries, donc d'abord ça touche d'abord le tiers-monde, en gros ça touche plus violemment le tiers-monde sous forme de guerre civile et tout ça que les pays du centre, notamment bon, l'Occident, la France, les États-Unis et tout ça. Plutôt que de voir voilà, tous ces événements, et puis en général c'est un amalgame de plein de phénomènes, hein, qui sont d'ailleurs pas forcément toujours critiquables, mais enfin on va amalgamer tout un tas de phénomènes et on va les faire découler non pas des dynamiques structurelles du capitalisme, ou des rapports de classe, des rapports géopolitiques et tout ça, et même d'ailleurs des rapports de genre, parce qu'on peut avoir une lecture conspirationniste des rapports de genre. Genre, ce qui s'est passé dans les années 70, c'était un complot, je sais pas quoi, du capitalisme pour détruire la famille, quoi. Ces trucs, ces thèses d'extrême droite qui sont défendues sérieusement. Bon. On aura tout entendu. Et donc, l'antisémitisme structurel, c'est une vision du monde qui attribue tout un tas de phénomènes qui sont perçus comme négatifs, qui peuvent être parfois réellement négatifs ou parfois en réalité pas du tout négatifs, comme l'émancipation des femmes, comme le produit. Non pas d'une dynamique structurelle donc, mais d'un complot, d'une minorité agissante. Donc on est voilà, c'est pas une dynamique de structure, c'est des individus, voilà, qui sont malfaisants, qui sont hors du peuple, parce que le peuple c'est du coup le référent positif, hein, pour ça qu'on ça nous amènera un peu à la question de la démocratie. Et donc cette minorité, elle est hors sol. Elle est cosmopolite, elle est internationale, parce que sinon elle n'arriverait pas à faire des complots internationaux quand même. Donc il faut qu'elle soit internationale, il faut qu'elle soit hors sol, qu'elle soit pas populaire, du coup elle va contre les intérêts de la nation, nation qui est un peu le référent commun positif de la gauche nationalitatiste comme de l'extrême droite d'ailleurs, même si c'est avec une définition légèrement différente. Du coup, on va expliquer tout ce qui se passe dans le monde par des complots. Par des complots, et non pas au sens de on va trouver deux, trois trucs parfois un peu suspects, parce que parfois, effectivement, oui, je ne sais pas, on peut dire que, oui, par exemple, la Réserve fédérale a été créée par, oui, effectivement, il y a eu une réunion entre des gens de l'administration fédérale et des banquiers. Mais après, la question, c'est, en fait, ça faisait partie d'une bataille entre deux fractions du capital financier. Sauf qu'eux, ils ne le voient pas du tout comme ça. Ils voient, il y a une minorité d'individus qui se réunissent. Alors, on a l'impression que c'est juste des gens qui sont puissants parce qu'ils se réunissent. Alors qu'en réalité, c'est parce qu'ils sont puissants qu'ils se ré... Alors qu'en réalité, c'est parce qu'ils sont déjà puissants et qu'ils ont des intérêts communs qui se réunissent. Donc là, on est dans une lecture qui inverse, entre guillemets, les positions structurelles. Comme on peut avoir l'impression que, oulala, Bilderberg, ils ont plein de pouvoir. Alors qu'en réalité, non. C'est juste des gens qui ont du pouvoir qui se réunissent. Voilà. Et qui discutent et qui parfois peuvent prendre des décisions communes. Mais en général, qui sont des décisions que de toute façon, ils auraient quand même prises. Parce que, ils sont, en l'occurrence, ils sont déjà les fractions dominantes des classes dominantes. Donc, bon. Enfin, bref. Donc, c'est vraiment une lecture complotiste du monde qui croit que, des individus complotent en secret et qui créent tout un tas de... Enfin, qu'il en résulte des guerres. Alors, il y a 50 000 explications, un complot... Alors, on peut arriver sur des trucs complètement délirants, du genre, c'est un complot juif qui a mis Hitler au pouvoir, qui...
La création d'État d'Israël.
Pour la création d'État d'Israël. Qui est apparemment, de sources pas absolument certaines, mais selon un ancien chouardien, quelque chose que croirait Chouard. Alors, je suis un peu... Je sais pas, mais enfin, en tout cas, il croit en tout cas des trucs assez délirants de ce même genre, qui... Et qui, du coup, n'est pas du tout une analyse structurelle, des rapports de classe, tout ça, mais uniquement des êtres malfaisants qui, on ne sait pas d'où vient leur pouvoir. Et pourquoi est-ce qu'on appelle ça antisémitisme structurel ? Parce que, historiquement, dans toutes les phases de crise du capitalisme, le populisme transversal, donc qui est globalement dirigé par des gens de la classe moyenne, enfin des mecs de la classe moyenne raciste, l'incarnation, la figure de ce groupe minoritaire complotant contre la nation, fomentant des guerres et des crises pour des buts complètement délirants et hégémoniques, ce sont les Juifs. Et donc, évidemment, ça a été le protocole des sages de Sion. Aujourd'hui, ça se prolonge jusqu'à... maintenant, on appelle ça publiquement le complot américano-sioniste. Mais enfin, bon, en fait, c'est juste parce qu'à un moment... et là, pour le coup, l'extrême-gauche n'est pas... Et pas complètement innocente, parce que ceux qui ont commencé à parler de complot sioniste, c'est quand même les staliniens dans les années 50, dans des grands procès, où ils ont essayé d'éliminer une partie de l'opposition à leur politique hégémonique dans les pays de l'Est. Et comme on ne pouvait pas les accuser, enfin, et on a trouvé comme prétexte, parce qu'il y avait pas mal de juifs, le fait que, en fait, c'était des agents sionistes, qui est une manière un peu plus polie de dire juif. Même si la critique des politiques colonialistes de l'État d'Israël évidemment n'est pas interdite, on reviendra peut-être dessus, mais enfin en tout cas la manière dont une partie quand même assez importante du dit sionisme ou américano-sionisme aujourd'hui en fait ont un vieux fond américano-sioniste, c'est-à-dire qui explique tous les malheurs du monde par le complot des élites sionistes entre parenthèses juives.
Du coup, est-ce que tu pourrais détailler un peu les différents liens qu'il entretient, enfin en fait en tout cas les auteurs comme par exemple Shlomo Sand, Gilal Asmon, enfin les différentes positions de ces auteurs-là par rapport à la question d'Israël et sa façon à lui de se rapporter à eux positivement même quand c'est des auteurs clairement antisémites quoi. Dans le cas par exemple de c'était qui là, Thierry Messon, non c'était qui Oui, ou par exemple le fait qu'ils soutiennent les positions d'un Forisson. Bon, tu pourras couper ma question parce qu'elle est pourrie.
Non, elle est super, c'est
juste. Non, elle est pourrie, mais parce qu'à un moment tu dis dans le texte que il y a un peu de tout dans ces références par rapport à la question d'Israël, oui. Quoi. Il y a des auteurs qui sont tout à fait qui critiquent la politique colonialiste d'Israël, et puis d'autres qui sont clairement antisémites et qu'en fait il fait aucune distinction entre ces différentes sources, quoi.
Oui, alors en plus, ce qui est assez amusant, c'est que les sources qu'il cite, c'est dans un message, dans un soi-disant article où il rompt avec Alain Soral. Après l'avoir copieusement encensé, peut-être qu'on y reviendra, simplement pour une petite citation croustillante dans une interview filmée d'ailleurs, il disait « Je pense que Soral n'est ni fasciste ni raciste ». Je le trouve même plutôt antifasciste et antiraciste.
Donc, bon. Soral, je fais un point info, qui est un des chefs de file de l'extrême droite française avec son organisation Égalité et Réconciliation, qui se revendique du national-socialisme, qui soutient le parti néo-nazi Obdoré en Grèce et Marine Le Pen en France, et qui a été membre de la direction du FN et a été condamné pour antisémitisme et provocation à la haine. Voilà. Donc il est considéré comme un homme courageux par Étienne Chouard.
Voilà, et d'ailleurs c'est quand même assez amusant parce qu'il a réédité Mein Kampf récemment en disant que c'était une expérience intéressante de socialisme national à l'intérieur de ses frontières. Donc voilà, donc un type assez sympa quoi. Et du coup, dans un message de rupture, où en gros, 99% de l'article est quand même pour dire mais Soral, quand même, c'est un mec bien, et puis les gens d'égalité et réconciliation, ils cherchent le salut commun à leur façon. Donc, par exemple, en prêchant le plus à mot à demi-couvert, l'expulsion violente des 8 millions de juifs du Moyen-Orient. Voilà, et puis d'autres petits trucs sympas, l'élimination des antifascistes, enfin, plein de choses super sympas. Donc dans un message où pendant 99% du temps, il dit que Soral, quand même, c'est un type bien, mais bon, il a dit une phrase. Il a réussi à trouver qu'une phrase, quand même. Une phrase qui est quand même un peu glissante, parce que quand même, il dit que Elkabbach, c'est un petit sémite de merde qui devrait fermer sa gueule devant Vladimir Poutine, qui est un grand arien. Bon, effectivement, là... ça commence à devenir difficile à défendre. Donc, dans ce message, il dit « Mais quand même, Soral, bon, il combat de redoutables projets de domination. » Alors, est-ce que Soral, il n'a pas un projet de domination, c'est quand même difficile de ne pas le voir. Mais enfin, il dit « Quand même, il m'a permis de connaître des gens super sympas, comme, je cite, Shlomo Sand, Jacob Cohen, Bernard Lazare, Israël Shaak, Gilad Atzmon, Norman Finkelstein, Gideon Levy, Mersheimer et Walt, Eric Azan, etc. » Donc on verra un peu le mélange des genres. Hein. C'était un peu comme si je vous citais... des penseurs de la pensée française comme... de la pensée allemande comme Karl Marx, Heidegger, Schmitt, Landauer qui est un anarchiste. Enfin, le gros mélange des genres, quoi. Donc effectivement, il cite des gens qui sont relativement intéressants, comme Shlomo Sand, qui est un post-sioniste. C'est-à-dire quelqu'un qui est critique, mais qui n'est pas non plus... un antisémite ou un réactionnaire. Bernard Lazare, bon, pourquoi pas, c'est un historien de la fin du 19e siècle, c'est un historien juif, bon, qui était un peu critique, pourquoi pas. Bon, Eric Azan, je sais pas si on va en parler, mais enfin. Mais en tout cas, il y a des gens, mais par contre, il recommande des gens qui sont en fait encore pires que Soral sur cette question-là. Donc notamment, par exemple, Jacob Cohen, qui soutient qu'il y a mondialement des millions de juifs et des milliers de non-juifs au service du Mossad, que les attentats du 11 septembre ont été orchestrés par le Mossad, qui donne des conférences au centre culturel iranien intitulé « Les sionistes, maîtres du monde incontestablement ». Donc là, je pense quand même qu'il a recyclé les protocoles des sages de Sion. Voilà. Et alors, par exemple, il y a... Il y a des gens encore plus sympas, comme par exemple Gilad Atzmon, qui est même dénoncé par beaucoup de pro-palestiniens comme étant vraiment un antisémite infréquentable. Il est même dénoncé par l'UJFP, qui est parfois pas toujours très clair et qui relaie parfois même Gilad Atzmon. Donc bon, c'est vraiment un mec qui est considéré comme craignos par tout le monde, il a écrit plusieurs ouvrages, notamment La parabole d'Esther, Anatomie du peuple élu, aux éditions conspirationnistes 2001 en 2012. Et alors lui, il dit que, en gros, les Juifs, c'est un mouvement de solidarité tribale transnationale qui fomente des conflits internationaux dans l'optique d'une suprématie mondiale. Voilà. Pour lui, l'Holocauste a été une victoire sioniste et il se demande si Hitler n'a pas eu raison. Voilà. Donc, plutôt un mec sympa. Et qui dit que le récit actuel sur l'Holocauste n'a aucun sens et qu'il faut regarder du côté des, entre guillemets, révisionnistes, c'est-à-dire des négationnistes comme Forisson qui disent que voilà, tout ça n'est qu'un d'être truffée de mensonges et qu'il n'y a jamais eu d'études historiques sérieuses alors qu'il y a eu quand même des centaines d'historiens qui ont bossé dessus.
Bon, après, juste pour nuancer un tout petit peu ça, une des stratégies d'Étienne Chouard qui est assez troublante, c'est il se positionne dans une position de victime en accusant ses adversaires ou ses détracteurs théoriques de fonctionner par des systèmes de rapprochement par étiquette. Et lui, il dit il faut cultiver le discernement et je peux très bien citer quelqu'un, comme je disais tout à l'heure, la lumière née du choc des idées. Nous sommes des adultes responsables et pleins de discernement, et du coup, on peut aller chercher chez un auteur ce qui vient conforter une thèse et laisser de côté ce qui ne viendrait pas la conforter. Donc, je pense qu'en fait, Étienne Chouard ne va jamais chercher ces éléments-là. Il se trouve qu'il va citer des auteurs qui, par ailleurs, ont ce type de position-là. Étienne Chouard ne vient jamais chercher ce type d'argumentation-là. Mais c'est pour ça qu'en fait, il participe à ce qu'on appelle un espèce de confusionnisme politique, c'est-à-dire qu'en fait, il crée des passerelles, il crée des boulevards, en fait, parce que quand on va sur le site d'Étienne Chouard, on tombe sur... Il y a deux, trois sites qui sont des sites de la gauche un peu molle, et puis il y a les trois quarts des autres références, c'est égalité, réconciliation, c'est... Enfin, c'est des sites qu'on pourrait qualifier de rouge-brun. Donc, en fait, il cite pas directement ce type d'analyse que tu viens d'évoquer. Mais en tout cas, il ouvre la porte pour aller s'intéresser à ces penseurs-là. Et donc, à ce titre-là, c'est une responsabilité qui est...
Bah, c'est ça.
Même s'il s'en défend en disant on peut pas me faire cautionner l'intégralité des postures des auteurs que je cite.
Oui, mais c'est une réponse quand même très facile qui fait parce que, d'une part, il est massivement lu, donc il a une responsabilité. Je veux dire, j'aurais un blog qui serait lu par 6 millions de personnes, je ne dirais pas des conneries, je ne renverrais pas vers des auteurs négationnistes, antisémites, fascistes, pour le coup, hein, qui se réclament quand même du national-socialisme, etc. Donc, voilà, première chose. Donc, il y a quand même une responsabilité indéniable. D'autre part, il y a plein d'autres références très intéressantes qu'il ne cite jamais. Je me souviens encore d'un truc quand même qui m'avait beaucoup fait rire, c'est qu'à un moment, il y a quelqu'un qui lui a mis un texte du Comité érotique révolutionnaire. Voilà, sur son blog... qui a plein de défauts, mais qui est quand même vachement plus intéressant qu'Alain Soral. Et il répond, très intéressant, mais sur le Moyen-Âge, il devrait lire Jacques Herz, qui est un historien catholique réactionnaire. Donc c'est quand même, on voit qu'il est complètement à côté de la plaque, et ses références sont très orientées. Il ne relaie jamais de trucs féministes. Il ne relaie jamais de trucs antiracistes. Il ne relaie jamais de trucs libertaires.
Sa seule référence historique, c'est la Grèce antique, qu'il idéalise complètement abusivement, en ayant des fois une interprétation un peu faussée de certains chiffres ou de certaines réalités effectives. Et par ailleurs, il y a des expériences plus récentes ou plus poussées qu'il cite jamais, comme voilà, la Commune de Paris, l'Espagne libertaire, le Chiapas, le quartier d'Exarchia à Athènes. Enfin, tout un tas de références comme ça qui peuvent constituer une tradition de lutte ou de gauche radicale, ou en tout cas...
Ou alors il les cite superficiellement, parce que pour être honnête, il a effectivement relayé une fois une vidéo sur l'Espagne libertaire, mais comme ça, qui approfondissait pas vraiment le côté lutte, tout ça, qui était plus un récit d'acteurs qui se souvenaient que c'était super chouette. Et voilà, donc il a quand même il a quand même mis sur son site 3-4 références intéressantes, genre Marcus Redeker sur les pirates. Mais c'est 3-4 références intéressantes noyées dans un océan de... pas de merde, mais enfin, par exemple, il relaie des articles de Russia Today, qui est, enfin, c'est quand même l'organe de propagande du Kremlin. Pour quelqu'un qui se dit anti-système et machin, bon, le Kremlin, c'est pas particulièrement un groupe anti-système. Hein. C'est quand même une des plus grosses puissances mondiales, la deuxième puissance nucléaire mondiale. Donc bon, c'est quand même un peu douteux, quoi. Et ce que je voulais finir sur cette histoire de référence, c'est que moi, je pense qu'il ne faut pas voir, il ne faut pas le prendre à la lettre. En fait, les références qu'il utilise, pourquoi est-ce qu'il les utilise ? C'est ça la question qu'il faut se poser. C'est, on peut utiliser plein de... Par exemple, si on étudie le fascisme, on peut étudier des auteurs fascistes qui ont défini le fascisme. Sauf que... Mais on s'intéresse au fascisme pourquoi, là, en l'occurrence, pour démonter le fascisme. Par exemple, quelqu'un comme João Bernardo, un historien portugais, il a lu plein d'historiens fascistes et plein de fascistes pour comprendre ce que c'est que l'idéologie fasciste pour le combattre. Lui, il lit plein d'historiens antisionistes pour s'attaquer de manière pathologique, unique... et réactionnaire à non pas seulement aux politiques coloniales israéliennes, non pas seulement au caractère colonial au caractère colonial et raciste de l'État d'Israël depuis sa fondation, mais à l'existence même d'un peuplement juif au Moyen-Orient. Et de manière complètement réactionnaire, puisque bon, bah, malheureusement ou heureusement, j'en sais rien, enfin peut-être qu'ils sont pas, peut-être que c'est peut-être que effectivement il y a eu un processus de colonisation, il y a eu des expropriations de terres. Effectivement, la jeunesse de l'État d'Israël n'est pas quelque chose de particulièrement glorieux. Mais d'un autre côté, aujourd'hui, de tenir une position qui est quasiment bon, on les vire tous, machin, on les envoie où, on ne sait pas. Parce que l'endroit où ils auraient pu faire un État, ils auraient pu faire un État. Ailleurs, ils auraient pu faire, ça aurait été le Yiddishland. Il y avait des millions de Juifs en Pologne et tout ça. Qu'est-ce qu'ils sont devenus, ces millions de Juifs ils ont été exterminés par quelqu'un dont l'ouvrage fondateur est réédité chez Soral. Alors, on va me dire, je fais des trucs, mais je pense que c'est important de dire que les références, ils les mobilisent pourquoi ? Parce qu'ils s'attaquent de manière obsessive aux États-Unis et à Israël.
Sans jamais parler d'autres États, par exemple la Russie, l'Iran ou même la Turquie. Enfin,
c'est des pays merveilleux pour lui.
C'est des États auxquels il s'attaque jamais, quoi.
C'est ça, des États qui sont démocratiques. Et là, en s'attaquant de manière unilatéral à Israël, en relayant plein de gens qui sont négationnistes ou qui disent en gros que Israël fait la politique des États-Unis, fait la politique mondiale, en donnant une puissance exagérée, en faisant pas un tableau équilibré. Évidemment, Israël est un État colonialiste, mais c'est aussi un État qui est pour partie un produit de l'antisémitisme, ce qui n'excuse en rien les politiques coloniales, mais qui permet de rappeler qu'il y a quand même un contexte, que voilà, il y a les vagues d'antisémitisme à la fin du 19e siècle. Le sionisme n'est pas né d'un mec cinglé qui voulait tout détruire. Et voilà, c'est né. Après, ça s'est très mal fait, etc. Et puis, il y a eu l'Holocauste aussi, qui a fait venir beaucoup de gens en Israël. Il y a des gens qui étaient encore en Pologne dans les années 40-50. Après la guerre, ils ont subi un antisémitisme tellement fort qu'ils se sont barrés. Et pareil, dans le Moyen-Orient, il faut quand même rappeler que le garde du corps et une partie des services secrets égyptiens sous Nasser, qui est le paragon de l'anti-impérialisme, encore aujourd'hui à gauche, c'était des SS, des anciens SS, le garde du corps de Nasser lui-même. Et tout ça pour dire que il y a cette volonté pathologique d'uniquement centrer sa critique sur Israël, en plus alors qu'il n'est pas vraiment concerné, quoi. Je veux dire, il est pas juif, il n'est pas palestinien, il pourrait faire la même critique à tous les autres États-nations qui se sont constitués aussi de manière horrible. Enfin, la Russie, ils se sont constitués sur des invasions, des massacres, sur des génocides, les famines en Ukraine dans les années 30 et tout ça. Ça, bizarrement, il n'en parle pas beaucoup. Donc en fait, la jeunesse de l'État d'Israël, la jeunesse de tous les États-nations, c'est-à-dire elle est dégueulasse, elle est colonialiste et tout ça. Pourquoi est-ce qu'ils s'attaquent à Israël ? À mon avis, c'est parce que ça, c'est cohérent avec sa vision du monde qui explique tout en termes de complot. Et en l'occurrence, bon, je suis obligé de le dire, en termes de complot juif, de complot de la finance et tout ça. Et en ça, je voudrais juste finir là-dessus. En ça... à mon avis, c'est pas uniquement une source d'extrême droite. Parce qu'il y a une certaine extrême gauche aussi qui s'attaque pas seulement à tous les colonialismes, notamment à celui d'Israël, mais s'attaque uniquement ou de manière aveugle à d'autres formes d'État-nation colonialistes à Israël, de manière un peu pathologique, en expliquant que finalement tous les malheurs du monde proviennent de l'État d'Israël. Une partie des malheurs du monde, sans doute, mais pas tous les malheurs du monde. Et du coup, je pense que là, l'anti-impérialisme monofocalisé contre les États-Unis et Israël, c'est un travers qui lui vient aussi de l'extrême-gauche anti-impérialiste et anti-sioniste, qui a plein de défauts. Du coup, bon, là, encore une fois, on ne peut pas rejeter toute la responsabilité des errements de Schwarz uniquement sur l'extrême droite. D'ailleurs, il le dit lui-même, sa conversion politique, c'est là-bas si j'y suis. Donc, on voit bien que cette gauche nationale étatique, elle a des responsabilités dans ce genre d'idées.
Bon, alors moi, j'aimerais bien qu'on, pour la dernière partie de l'émission, qu'on aborde la question de la fameuse cause des causes, qui est donc l'argument, enfin l'espèce de slogan schwarzien, donc la cause des causes. Il pense avoir trouvé la cause des causes qui résiderait donc dans notre impuissance politique, qui serait la conséquence du fait que ce sont, je parle un peu dans ces termes, hein, qui seraient les hommes du pouvoir qui écrivent les règles du pouvoir. Et que du coup, on se retrouve forcément dans une situation de conflit d'intérêts. Et que donc, la solution à ce truc-là, ce serait donc de mettre en place une espèce de démocratie directe, donc sur le modèle voilà, de la Grèce antique, avec l'idée d'une égalité politique, etc. Et un système qui reposerait principalement sur le système du tirage au sort pour que on évite la question du conflit d'intérêts. Et donc voilà, il développe tout le truc classique autour de la démocratie directe, les mandats courts, non renouvelables, la possibilité de destituer les tirés au sort, etc. Et donc ça pose plusieurs problèmes. Déjà, c'est la conséquence d'une vision en fait extrêmement moralisatrice ou en tout cas personnificatrice des problèmes politiques qui s'incarne dans la figure de l'élu. Alors si on traîne un peu sur les pages gentivirus, donc qui sont les militants en fait schwarziens, les gentivirus ils vont attaquer les pages Facebook des élus ou alors ils postent des commentaires sur des publications Facebook où le discours en fait est très simpliste, très superficiel, très caricatural. C'est une diabolisation de la figure de l'élu. Voilà, l'élu, c'est le mal, c'est. Mais c'est vraiment, c'est pas du tout une critique structurelle ou une critique de la fonction ou du rôle social de l'élu. Enfin, en tout cas, une critique qui s'inscrirait dans une critique plus globale de la totalité sociale dans laquelle on se trouve. Non, c'est vraiment une haine, une personnification. De la figure de l'élu. Et un autre problème qui est le problème central duquel on, par rapport auquel on peut discuter longtemps, qui est cette espèce de fétichisme de la sphère politique, comme si en fait la politique était un système séparé, était une sphère complètement hétérogène à la sphère de la production, au marché, etc. Et qu'en fait il suffirait de changer de constitution sans changer les structures capitalistes, sans changer les rapports de production, etc., qui sont pourtant déterminants dans la société capitaliste. Donc lui, il défend un espèce d'assembléisme pur, non conflictuel, composé de citoyens. Donc là, on retombe un peu sur la figure peuple. Il dit souvent, on est tous des humains. Les fascistes aussi, les fascistes, c'est des humains, donc il faut parler avec eux. C'est justement dans le cadre d'une démocratie directe où on pourra entendre leurs paroles, qu'on pourra discuter avec eux. Il faut comprendre pourquoi ils en sont là. Enfin, on a l'impression que, voilà, un skinhead, il fait une séance de psychologie et puis ça va mieux. sur cette espèce de fétichisme de la forme, de fétichisme du politique, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Et qui, en fait, sa proposition de démocratie directe et de tirage au sort, c'est vraiment sa proposition centrale, unique, quoi. Et je pense que là, on peut s'attacher à la déconstruire vraiment, quoi.
Ouais, je pense que c'est effectivement un aspect vraiment central de toute la pensée, au-delà de tous les éléments dont on a déjà parlé. Et je pense d'ailleurs que c'est, dans une certaine manière, assez cohérent avec le reste de son système, même si c'est vrai que avec les mêmes idées, à part ça, il pourrait être tenté par un truc beaucoup plus autoritaire. Mais peut-être parce qu'il a une culture républicaine, de classe moyenne et tout ça. C'est peut-être d'ailleurs sa principale différence, une de ses principales différences avec quelqu'un comme Alain Soral. Alors son démocratisme, ce qu'on pourrait appeler le démocratisme, effectivement, il est caractérisé par plusieurs choses. D'une part, c'est la croyance au formalisme. C'est-à-dire qu'en gros, il n'y a pas besoin de lutte. Il n'y a rien sur les luttes. Les luttes n'existent pas. Chez Étienne Chouard, il y a bien eu la Révolution française, mais enfin, depuis, il n'y a rien eu. Il n'a aucune importance aux luttes, que ce soit de classe, de genre, ou antiraciste, ou anticapitaliste, anti-étatiste, libertaire, tout ça. Les luttes ne jouent vraiment aucun rôle dans sa pensée. Et du coup, c'est parce que, justement, il faut éviter le conflit. Et pourquoi est-ce qu'il faut éviter le conflit ? À mon avis, c'est parce que lui-même, bon, sans faire de la sociologie, mais enfin disons qu'il a une position dans le champ social qui n'incite pas au conflit, puisque voilà, bon, il est apparemment propriétaire d'une maison, il n'est pas si mal loti que ça, voilà, c'est pas a priori, il n'a pas envie de faire une insurrection.
Non, mais demain, c'est pas qu'une question de déterminisme, c'est pas qu'une question de position sociologique, c'est une question de choix politique en fait. Enfin, je veux dire, on peut gérer la lutte et le conflit, même en étant sociologiquement placé.
Oui, mais enfin, disons qu'il a pris, bon, je précise, il a pris ce qui allait être plus confortable et plus facile à partir de sa position sociale. Mmh. Bien sûr qu'il pourrait avoir une position insurrectionnelle pour la destruction du racisme et du patriarcat. Mais enfin, en l'occurrence, ce n'est pas ce qu'il a. Il a pris la solution qui était facile, qui ne le remettait pas du tout en cause. D'ailleurs, lui-même ne se remet pas du tout en cause dans aucun des éléments. Il fait le maître ignorant, mais il inonde tout le monde de vidéos où il explique sur un ton professoral des choses qui, en général, où il dit à peu près n'importe quoi. Enfin voilà, il y a une forme de consensualisme qui va bien avec l'idée de on maîtrise les revendications féministes, antiracistes, prolétaires, tout ça, on les met sous silence, et il faut que quand même le petit patron raciste d'à côté de chez moi, il s'y retrouve quand même, hein. Et il ne faut pas quand même qu'il se retrouve avec des gens qui ne sont pas contents du harcèlement, tout simplement, de sa politique raciste, parce qu'il n'embauche pas des ouvriers racisés, et du fait qu'il continue quand même de se garder les profits. Donc ce n'est pas non plus la catégorie de population la plus défavorisée au monde. Enfin bref, tout ça va bien du coup avec une forme d'interclassisme. Voilà. On ne revient pas trop là-dessus, mais enfin voilà, une espèce de... il ne faut pas se fâcher... du petit patron de la PME à côté qui exploite 50 ouvriers ou ouvrières jusqu'au prolo de base, il faut quand même s'entendre entre gens respectables. Et du coup, dans ce consensualisme et dans cet interclassisme, il y a aussi ce qu'on pourrait appeler une sorte de consensualisme de l'exclusion. C'est-à-dire qu'en fait, de facto, c'est de la sociologie de bas étage, mais enfin, pour être allé un petit peu dans des assemblées citoyenniste, je ne suis pas allé dans des assemblées chouardiennes en l'occurrence, mais peut-être tu pourras en parler, la représentativité est quand même assez limitée. C'est-à-dire qu'il y a quand même une majorité plus ou moins importante de mecs, une écrasante majorité quand même de gens qui ne sont pas racisés, et des gens qui viennent en moyenne de classe moyenne. Tout ça n'est pas pour dire, pas pour faire une forme de déterminisme social.
En tout cas, ce n'est pas l'aspect le plus intéressant de la critique.
Enfin... oui, mais en l'occurrence, ce consensualisme d'exclusion, c'est pas simplement comme on pourrait avoir dans les milieux gauchistes. Voilà, c'est les gens qui ont un gros capital culturel qui se retrouvent. Là, effectivement, il y a une forme d'exclusion, mais qui est plus, qui est parfois, disons, au moins plus une exclusion qui est finalement assez regrettée, quoi. Finalement, il y a plein de groupuscules gauchistes qui se diraient putain, ce serait vraiment bien si on avait plus de prolétaires, plus de racisés, parce que là, on a vraiment l'air on a vraiment l'air con, quoi. Alors que là, pour le coup, à partir du moment où il y a des gens d'égalité et réconciliation crâne rasé qui débarquent dans une assemblée, globalement, le seul problème, c'est la démocratie, que toutes les revendications, que le racisme, le sexisme, tout ça, c'est des revendications qu'on n'entend pas, qu'on ne comprend pas, ou qui sont
minorées. Ou en tout cas, elles sont secondaires parce qu'elles seront réglées de facto si on était en vraie démocratie. Toujours l'idée que la question politique est première et que quand on sera en vraie démocratie, toutes les autres questions suivront et tous les nœuds se défront naturellement, spontanément, parce qu'on sera en vraie démocratie.
Mais en vrai, ça renvoie quand même à une position conservatrice. Parce que, pour prendre un exemple qui, pour le coup, n'a rien à voir avec Chouard, le mouvement ouvrier a dit pendant... plein de temps que l'antisémitisme et notamment la domination masculine, l'oppression de genre et tout ça, ça se réglerait quand on aurait instauré le socialisme. Ce qui permettait en attendant de ne rien faire. En général, c'était ça. Hein, quand même, ça servait quand même à ça. Donc, pour en revenir, donc il y a quand même, je pense, une forme d'exclusion. Et je pense que, même si évidemment tous nos milieux eux-mêmes sont déterminés sociologiquement, le leur aussi, et ça n'a quand même pas des effets très positifs. Donc, façade démocratique, oui. Enfin, au moins, on peut dire que les milieux gauchistes aussi ont une forme de façade, mais en réalité, c'est quand même assez élitiste. Là, pour le coup, ils ont une façade démocratiste qui prétend parler du peuple, mais en réalité, le peuple, c'est pas grand monde. Ensuite, pour parler rapidement d'autre chose, du moralisme. Le moralisme, c'est un petit peu effectivement une conception personnifiante de la politique, alors qu'en réalité, la corruption, d'où est-ce qu'elle vient ? Elle vient du fait que comment est-ce que des individus qui sont constitués par la société capitaliste comme étant des individus privés recherchant la maximisation de leurs intérêts privés, et qui sont constructurés structurellement, c'est pas juste une idéologie, hein. Enfin, je veux dire, on est dans le capitalisme en tant qu'individu avec un compte en banque plus ou moins élevé. Quand on n'a plus de sous dans les comptes en banque et qu'on est majeur, on crève. Donc, on est constitué comme ça, et on devrait en même temps, quand on devient un élu, c'est-à-dire quelqu'un qui est censé porter les intérêts publics, on devrait arriver à ne plus être un individu privé. C'est une contradiction. Et dans aucune société, enfin dans aucune société capitaliste connue, ça a marché. En Iran, il y avait soi-disant, voilà, les religieux allaient être saints, ils n'allaient pas être corrompus. En réalité, le parti, lui non plus, ne devait pas être corrompu parce qu'il représenterait les intérêts du prolétariat. Tout ça, c'est des foutaises. Et donc, du coup, là, on voit vraiment qu'on est dans une critique tronquée de la politique.
Oui, alors, à la fois, ils n'ont pas une critique de la mauvaise conduite morale des personnes élues, ils ont quand même une critique de la représentation, du principe même de la représentation. Donc en fait, l'idée qu'un élu soit pris dans des conflits d'intérêts ou qu'il ait des pratiques, ils analysent pas ça comme une corruption morale, mais comme les effets logiques d'un système qui serait le gouvernement représentatif et qui serait pas une démocratie.
Oui, donc, mais le problème, c'est que en réalité, la critique que je faisais s'applique aussi à la démocratie directe.
Oui.
Parce qu'en réalité, eux, ils continuent de fonctionner avec des systèmes d'assemblée où il y en a une partie qui tire au sort, une autre partie élue. Enfin, c'est un système un peu bric-à-broc. Peu importe, de toute façon, je pense qu'il n'a pas un grand intérêt. Il ne changerait pas grand-chose, d'ailleurs. La réflexion, voilà, sur cette contradiction serait évidemment valable. Évidemment qu'Étienne Chouard a des intérêts privés. N'importe qui a des intérêts privés dans la société capitaliste. Et en appeler à la vertu et tout ça, enfin, c'est un grand classique des mouvements d'opposition réformiste depuis deux siècles. Ça n'a donné aucun résultat, à part perpétuellement, voilà, ou alors fantasmer sur des personnalités historiques comme Robespierre, l'incorruptible et tout ça. Bon, enfin, quand on voit la tronche de l'incorruptible, qui a envoyé quand même pas mal de militants révolutionnaires à la guillotine, bon, je pense que c'est pas non plus un saint. Alors pour revenir sur la question de la politique, il y a effectivement un fétichisme de la politique dans le sens où la politique est vue comme la solution à tous les problèmes. Et la politique, alors ici qu'on soit au sens moderne, le système institutionnel de la politique dans le capitalisme, avec l'État, ses institutions, sa bureaucratie et tout ça, en gros... il suffirait de démocratiser, entre guillemets, l'État, même pas d'abolir l'État, de démocratiser une petite partie de l'État, parce qu'en réalité, il y a quand même une partie où il y a des fonctionnaires, enfin, il n'y a pas pour l'élection de tous les fonctionnaires, a priori. Donc, cette petite partie de l'État, il suffirait de la démocratiser pour que, finalement, les choses aillent mieux. Alors, évidemment, dans son modèle, si j'ai bien compris, il y aurait aussi une forme de décentralisation très importante du pouvoir. Avec des assemblées à la base.
De toute façon, qui prône une forme de décentralisation ou une espèce de démocratie d'État, démocratie directe d'État, la question centrale, elle n'est pas tellement là. Elle est dans le fait qu'ils considèrent que se mettre tous ensemble autour d'une table et simplement délibérer et affronter des positions théoriques et trouver des solutions avec le consensus, pour lui, le lieu de l'intervention politique et sociale, il se trouve là. Et c'est ça, en fait, la problématique centrale. C'est que la question politique, c'est pas seulement des volontés. Je veux dire, on n'abolit pas le capitalisme en décidant démocratiquement, même en ayant tiré des gens au sort. On n'abolit pas le capitalisme en étant d'accord autour d'une table, en fait. La question politique, c'est des paroles, mais c'est aussi des actes, c'est aussi des luttes. Et surtout, c'est des luttes sur le terrain matériel, en fait, sur le terrain de ce qui nous tient concrètement. dans les formes de gouvernement capitaliste qui sont pas des pures décisions politiques qu'on pourrait destituer pour en mettre d'autres à la place, en fait. Enfin, on peut très bien faire une constituante démocratique pour un capitalisme d'État hyper autogéré. Enfin, je veux dire, la Suisse est un pays beaucoup plus démocratique que la France, et pour autant, il a le même fonctionnement. C'est un pays complètement...
Ils font des sympathiques référendums contre les migrants aussi.
Et d'ailleurs, Étienne Chouard, il cite souvent le système démocratique de la Suisse. Voilà, c'est un... Il parle souvent du système des cantons en Suisse. C'est merveilleux.
Qui est un des systèmes, d'ailleurs, qui a accordé le droit de vote aux femmes le plus tard. Voilà, le droit de vote aux femmes en Suisse, c'est 1971. C'est-à-dire quand même 25 ans après la France.
Et après, voilà, Étienne Chouard, il a une espèce d'optimisme naïf et dangereux sur ce qu'il pense être une nature humaine. Qui serait, voilà, si elle n'était pas entravée par la corruption et le problème de la représentation et de l'oligarchie, serait spontanément communiste et progressiste, quoi. Qui est critique, qui est encore une fois moralisatrice et non pas structurelle, quoi. De comprendre vraiment c'est quoi le rôle de la politique et c'est quoi ses possibilités. Et en fait, elles sont très minces.
Bah ouais, du coup, je pense qu'on peut un peu résumer ça, qu'il y a une forme de double illusion chez Étienne Chouard, à la fois une illusion sociologique et anthropologique, c'est-à-dire que déjà les individus ne sont pas pris, quand ils discutent ensemble, ne sont pas pris dans des rapports de classe, dans des rapports de genre et dans des rapports de racisation.
Ce sont des humains, catégorie générique, universelle.
C'est ça, voilà, tout le monde devient un humain, alors que, bien sûr que les humains existent comme espèce biologique, mais... tant qu'on n'abolira pas les rapports de classe, les rapports de genre et les rapports de racisation, l'humanité, entre guillemets, ce sera toujours une vaine abstraction pour masquer ces rapports.
Et ces rapports-là ne découlent pas d'une simple décision aussi démocratique soit-elle.
Non, elle découle. Et du coup, on est dans une définition anti-matérialiste. En fait, pourquoi est-ce qu'il y a du racisme et pourquoi est-ce qu'il y a du sexisme ? Parce que pour la question du sexisme, par exemple, parce que ça arrange bien une partie de l'humanité que les femmes soient infériorisées, qu'elles doivent faire la vaisselle, qu'elles se tapent 80% des tâches ménagères, qu'elles fournissent des services sexuels, etc., etc. Et pareil pour la question du racisme, même si c'est un peu différent. Et pareil pour la question des classes aussi, même si c'est encore un petit peu différent. Et du coup, on est vraiment dans une illusion sociologique et dans une illusion anthropologique aussi que finalement tout se résout par la discussion et non pas par des changements des structures elles-mêmes. Et ce qui nous amène à la deuxième illusion, c'est-à-dire une illusion sur le fait qu'il suffirait de se mettre autour d'une table pour décider. En réalité, le pouvoir, entre guillemets, hein, le pouvoir de la politique dans le système capitaliste, en réalité, est minime. Est minime parce que on ne peut pas démocratiquement décider d'abolir la loi de la valeur. On peut l'abolir en faisant un mouvement de révolte, d'expropriation du capital, etc. Mais on ne peut pas décider démocratiquement d'abolir la loi de la valeur. On peut par exemple décider de rétablir la souveraineté monétaire et le protectionnisme français à la suite d'un débat très 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 démocratique. Sauf que les capitaux qui veulent se barrer, eux, ils se barreront. Et tous les pays qui voudront prendre des mesures de rétorsion contre le protectionnisme de la démocratie française, eh bien, prendront des rétorsions. Ce qui fait que cette magnifique décision démocratique pourra avoir des effets très néfastes, en réalité. Et c'est pour ça, d'ailleurs, notamment que Syriza n'est pas devenu protectionniste et n'a pas abandonné l'euro. Parce que ça veut dire que... on renonce à toutes les importations, ça renchérit les biens, etc.
Mais c'est pour ça qu'on voit bien qu'il y a finalement une espèce de cohérence, ou en tout cas de fil qui fait que sa pensée, elle se tient très bien. C'est-à-dire que c'est sa critique complètement erronée, en fait, de ce qui serait un problème économique, c'est ce qu'il définit comme les problèmes économiques, c'est-à-dire en fait des problèmes financiers, découle une certaine vision de quelles seraient les possibilités politiques.
Oui, il suffirait de réguler la finance.
Voilà, en fait, ça fait une espèce de constellation comme ça d'analyses qui sont cohérentes entre elles, mais du coup qui sont...
C'est ça, c'est un peu les illusions du réformisme. C'est-à-dire, en fait, il suffirait de quelques petites modifications de nature politique, sous impulsion politique, pour que le capitalisme soit à visage humain et merveilleux. Alors, peut-être que pour lui, ça lui apparaît vrai. Pour une majorité de la population mondiale, ça ne l'est pas. Pour l'environnement, ça ne l'est pas. Et du coup, on voit bien que dans ses illusions, je pense que malgré tout, il traduit le fait qu'il est dans une position relativement privilégiée qui lui permet de se dire que, en fait, on changerait juste les autres, les méchants, c'est-à-dire pas mon copain qui est patron de, depuis qu'il est petit patron, mais juste en s'attaquant à ces gens méchants là-haut, les 1%, sans changer du tout les règles du système, ce qui fait qu'en fait, on ne voit pas comment est-ce que les 1% disparaîtraient. À partir du moment où le système capitaliste est toujours en place, on ne voit pas comment est-ce qu'il n'y aurait pas une classe capitaliste qui serait hyper riche et tout ça. Donc là, on est dans une
contradiction. Non, mais c'est ça, c'est que lui, il n'a pas du tout d'analyse du capitalisme en termes de totalité. C'est enfin, ça. Il voit vraiment la question politique comme un truc complètement hétérogène. Pour lui, il n'y a pas de totalité sociale. Du coup, évidemment, en se mettant tous autour d'une table, on abolit la domination des 1%.
C'est ça. Et... En fait, au fond, il y a, chez Chouard, il y a... Alors, il y a une partie de la société qui est naturelle. Donc, les rapports de genre, tout ça, c'est le capitalisme, c'est naturel. Et après, il y a des choses qui sont sociaux. Et c'est le processus de décision politique et la finance. Voilà. Et donc, du coup, il suffit qu'il y en ait une petite sphère. Il y a deux petites sphères sociales, du coup. Tout le reste, c'est naturel. La petite sphère sociale numéro 1, la gentille démocratie. Intervient sur la finance, revient à la souveraineté monétaire, elle contrôle les banques, blablabla, blablabla, et on est dans un monde merveilleux et naturel.
Alors, est-ce que tu veux conclure, Armand Paris?
Bah alors, je pense que pour finir, on n'a pas abordé tous les aspects de la pensée d'Étienne Chouard. Je pense qu'on aurait plus dû insister sur le fait que voilà, par exemple, il reprend beaucoup de poncifs de l'anti-impérialisme en reprenant des articles de propagande du Kremlin, en défendant la rébellion en Ukraine d'extrême droite proche de Poutine. Bon, même si en face, c'est pas mieux, hein, évidemment. Mais enfin, voilà, en défendant Bachar al-Assad, Milosevic, enfin. Tous les mecs sympathiques qui s'opposent aux méchants empire américain. On aurait pu critiquer aussi sa vision complètement surannée où il oppose en gros les collaborateurs et les résistants. Voilà, où en gros, il y a les bons et les méchants, alors qu'en réalité, déjà, un, c'est plus complexe. Et puis après, dire que Soral, c'est un résistant... alors qu'il réédite Mein Kampf, c'est quand même vraiment un peu gros, quand même. Voilà. Même si à l'époque, il ne l'avait pas réédité, mais enfin, il se disait déjà national-socialiste. Hein, donc, il ne faut pas non plus prendre tout le monde pour des cons. Bon, on pourrait aussi discuter du fait qu'il a défendu une intéressante conférence avec Marion Sigaud, qui est une catholique intégriste contre-révolutionnaire, qui véhicule une vision de la Révolution française. Enfin, disons, du début de la Révolution française, parce que Chouard, en gros, il est pour la partie robespierriste de la Révolution française. Mais le début, Robespierre est quand même... Enfin, je veux dire, Chouard est relativement d'accord sur le fait de considérer 1789 comme plus ou moins un complot de la bourgeoisie et des Lumières et des francs-maçons, quoi. Hein. Même si c'est un petit peu plus subtil que ça, mais enfin, globalement, il n'a pas trop de problèmes à discuter avec quelqu'un qui défend ses positions. Je pense qu'il faudrait finir sur quelque chose... c'est-à-dire qu'on a défini au début de l'émission Chouard comme confusionniste. Et je pense que c'est peut-être le mot de populisme transversal le définit très bien. Mais le mot de confusionniste le définit aussi très très bien pour une raison. Parce que lorsqu'il dit que les antiracistes sont en réalité racistes parce qu'ils emmerdent les racistes, du coup ils sont racistes des racistes, ce qui ne veut rien dire en fait, hein. Voilà, c'est un petit peu comme si un juif qui accusait l'autre d'être antisémite, l'autre disait « mais tu es antisémite ». Ça ne veut rien dire, là vraiment on voit bien que c'est absurde. Mais c'est pourtant ce que dit Chouard, et dans la même veine, il accuse les féministes d'être sexistes parce qu'elles emmerdent les hommes, qui sont pourtant en fait les responsables du sexisme, puisque le sexisme, c'est non pas une attitude individuelle de mauvais citoyens, mais en réalité, c'est un système structurel qui a plein d'avantages matériels. Bon, peut-être que lui, il ne les voit pas trop, mais enfin, il y a quand même de la matérialité derrière tout ça. Juste, bon, voilà, le chiffre des viols qui touche majoritairement, enfin 90% les femmes, 80% de tâches ménagères. Et je pense que Chouard n'est pas seulement, je voudrais finir là-dessus, je pense que Chouard, en partie peut-être, est naïf. Mais je pense qu'on ne peut pas tout mettre sur le compte d'une naïveté et d'une bonhomie. Voilà. Je pense qu'en partie, il se met des œillères parce qu'il ne veut pas se remettre en cause, parce qu'il ne veut pas remettre en cause la société dans laquelle il vit, dans une société qui l'avantage quand même malgré tout. Hein, casse moyenne dans les pays centraux du capitaliste et être un homme non racisé, c'est quand même faire partie de la population privilégiée. Je pense qu'on ne peut pas lire Chouard uniquement sur l'aune de la naïveté et qu'il faut le prendre comme quelqu'un qui, sérieusement, s'oppose à ce que serait une véritable émancipation, c'est-à-dire une émancipation anticapitaliste, antipatriarcale, antiraciste, pour l'abolition des classes et pour l'abolition de toutes les formes d'oppression et de domination sociale, quand lui, en fait, finalement, ne remet en cause que des micros, des tout petits trucs qui le gênent lui, mais qui ne résolvent finalement pas grand-chose.
Et je pense que si, en fait, à un moment, il a été exposé médiatiquement très rapidement, et alors qu'en fait, il était dans un processus aussi de formation politique. Enfin, je pense qu'il a, au moment là, en 2005, où il a commencé à être vraiment un personnage public, il avait peu de culture politique, en fait, très peu de culture politique. Et du coup, il a étoffé cette culture au fur et à mesure de son exposition médiatique. Et il y a des moments où il y avait des personnalités à gauche, Franck Lepage, Judith Bernard, qui essayaient de le mettre face à ses contradictions et de le ramener dans un giron un peu plus gauche molle, et où en fait il a peut-être à ce moment-là il y avait encore une forme de naïveté dans ses propos, et qu'en fait il a clairement fait le choix de se tourner plutôt vers des Alain Soral, Francis Cousin, etc., et que là il y a quelque chose qui ne relève plus de la naïveté mais qui relève quand même d'un positionnement politique assez assez clair.
Oui, d'ailleurs on pourrait finir sur le fait qu'il a appelé à voter pour Asselineau, qui est quand même clairement quelqu'un de droite, hein, qui est quelqu'un qui défend la colonisation.
Et encore une fois, ici, son confusionnisme est complètement déroutant, c'est-à-dire que il dit que voilà, il aime bien Mélenchon, Asselineau, et que par ailleurs, si Marine Le Pen ne représenterait plutôt quelque chose de positif par rapport aux thèmes qui sont défendus par les antivirus, quoi. Donc voilà, Mélenchon, Asselineau, Marine Le Pen,
Voilà.
Alors après, je ne sais pas si c'est très correct de faire une critique d'une pensée politique au regard de qu'est-ce que sont devenus les gens qui ont baigné dans cette pensée-là, mais je pense que ça peut être quand même significatif. Moi, à un moment de ma vie, j'ai connu des gens qui étaient des antivirus, et voilà, on est 3-4 ans plus tard, et en fait, quand je regarde un peu leur trajectoire politique, c'est assez inquiétant. Il y en a quelques-uns voilà, qui sont à fond pour Asselineau, voilà, qui défendent... Il y en a quelques-uns qui trouvent que l'élection de Donald Trump est un moindre mal, parce que voilà, Donald Trump, il a un côté anti-système, etc. Et il se présentait au moment de sa campagne avec un côté plutôt populiste, etc. Donc voilà, il soutenait voilà, l'élection de Donald Trump. D'autres qui relayent sur leur blog des vidéos de Francis Cousin, Thierry Casas Novas. Voilà, donc qui sont un peu des gens dans la même galaxie, dans la même veine qu'Étienne Chouard. Et puis...
Et d'ailleurs, Francis Cousin a fait récemment un entretien avec Étienne Chouard, donc comme quoi il y a des convergences réelles entre les deux.
Et en tout cas, c'est des gens qui participent pas du tout aux luttes, qui font jamais référence dans leur publication ou dans leur référence aux luttes, en fait, aux luttes actuelles. Je pense au printemps dernier, je pense à ce qui se passe à la ZAD, je pense à... Enfin, en fait, c'est des références qui font pas du tout partie de leur... De leur constellation idéologique, quoi.
Ils y sont pas du tout. Et d'ailleurs, Étienne Chouard, la seule mention à propos de la loi travail de l'année dernière, c'était un post qui disait que qui était une vidéo de Gérard Filoche. Donc, Gérard Filoche, grand révolutionnaire, grand lutteur, voilà,
Et par ailleurs, sur une vidéo qu'on peut trouver facilement sur Internet, Étienne Schwartz s'exprime à propos de la question de l'abolition des frontières, en s'offusquant que ce thème soit un thème qui suscite de l'enthousiasme, puisqu'il dit évidemment, par nature, les hommes ne sont pas nomades, les hommes sont sédentaires. Et donc, voilà, supprimer les frontières, c'est quand même une folie, puisque ce serait contrevenir à la nature humaine qui serait de s'ancrer, d'avoir, il dit comme ça, il dit pour pouvoir t'accueillir, j'ai besoin d'avoir un chez moi. Il faut des limites. Voilà, il cite Régis Debray. Il dit il faut des limites pour que je t'accueille chez moi. Il faut une frontière. Il faut ce qui délimite ton chez toi et ton chez moi. Qui reprend cette espèce de vieille critique gauche-droite là, de Régis Debray. Mais surtout en faisant une opération qui est quand même assez incroyable, qui est d'oublier, enfin d'omettre complètement la question sociale, en fait, la question de la guerre, la question de la dévastation politique, économique. Matériel de certains pays. Enfin, il dit, par nature, l'homme n'est pas nomade, donc fermons les frontières, on respectera la nature humaine.
C'est ça. Et 4000 morts dans la Méditerranée, c'est respecter la nature humaine.
Par ailleurs, il trouve que Soral est également un homme courageux, puisque ce serait l'auteur de la gauchisation du Front National, puisqu'il aurait tiré le Front National à gauche, puisque le FN est passé dans une position ultra-libérale a aujourd'hui une position antilibérale. Et donc c'est grâce au passage d'Alain Soral au FN, puisque après le passage de ce monsieur, le FN se met à s'opposer au libre-échange, à la monnaie privatisée et à défendre la protection des services publics, donc, c'est-à-dire des thèmes qui sont des thèmes de gauche. Donc grâce à Soral, le FN est devenu un parti de gauche.
On est content de l'apprendre.
Par ailleurs, par rapport au dépassement du clivage gauche-droite, il déplore que maintenant, le clivage soit devenu d'un côté les racistes et de l'autre côté les antiracistes. Et que du coup, on puisse plus critiquer le problème des banques et de la création monétaire sans être raciste. Et que voilà, les banquiers se marrent et que évidemment, c'est eux qui ont organisé ça et qu'ils se marrent de notre marasme politique.
Donc on peut imaginer que le féminisme aussi est une invention des banquiers. Les féministes seront ravis de l'apprendre.
En fait, pour conclure, je pense qu'on peut dire qu'il faut déchoir Étienne Chouard.
Sans doute, l'arme de la critique ne peut-elle remplacer la critique des armes ? La puissance matérielle ne peut être abattue que par la puissance matérielle. Mais la théorie aussi, dès qu'elle s'empare des masses, devient une puissance matérielle.
Connaissons notre vieil ennemi, la marchandise, le travail marchandise, la société marchande, le capitalisme. Mais la critique le découvre comme inséparable de l'État moderne.
Alors je le dis, parce que c'est la vérité, il ne faut pas travailler.
Il faut s'organiser pour ne plus jamais travailler.